religions du monde, Geneviève Delerue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au sommaire de cette émission de rentrée, le Liban dans la tourmente et à l'heure des choix, sortir ou non du système confessionnel. La question de l'aide aussi, notamment de la France, après la venue en début de semaine à Beyrouth du président Emmanuel Macron, aide humanitaire, aide à la reconstruction, soutien aussi, on l'entendra, à l'éducation. L'explosion le 4 août dans le port de Beyrouth qui a dévasté une partie de la ville est venue mettre au grand jour la crise économique sans précédent que traverse le Liban avec 55% de la population qui vit au-dessous du seuil de pauvreté. La revendication majeure de la jeunesse libanaise dans les rues depuis l'automne 2019, en finir avec le système confessionnel qui favorise la corruption et le clientélisme. Avec nous en ligne de Beyrouth, le père Fadi Daou, président et directeur général de la fondation Adian. Bonjour père Fadi Daou.
Bonjour.
Alors quelques mots déjà sur cette fondation que vous avez co-créée il y a maintenant une dizaine d'années.
Une quinzaine d'années.
Fondation qui a obtenu le prix de la paix civile au Liban. Et c'est une fondation donc qui œuvre en partenariat avec le ministère de l'Éducation. Et voilà, pour une éducation, j'allais dire, à la citoyenneté et au vivre ensemble. Alors vous, vous êtes dans un poste d'observation et puis vous vivez à Beyrouth. Quelle est la situation aujourd'hui au Liban, un mois après la double explosion dans le port de Beyrouth?
Alors, la situation elle reste jusqu'à maintenant catastrophique. C'est parce que ce que vous avez appelé la double explosion du port de Beyrouth, en fait, il y a eu en effet deux explosions successives. Mais nous, quand on parle de double explosion, on parle en fait de deux explosions différentes. On parle de l'explosion du système de gouvernance au Liban, qui s'est produite quelques mois avant l'autre explosion, donc plus physique, je dirais réellement visible, du port de Beyrouth. Et les deux explosions ont fait que les effets de la deuxième explosion sont devenus insurmontables. Parce que nous parlons d'un pays, c'est des chiffres qu'on ne pouvait pas imaginer avant, qu'on peut parler du Liban avec, comme vous avez mentionné, 55% de la population en dessous du seuil de pauvreté, les gens n'arrivent pas à accéder à leur argent dans les banques. Bien sûr, en plus, avec toutes les conséquences du Covid-19 aussi, qui compliquent toute la situation. Mais nous sommes face à l'explosion du système de gouvernance, je dirais ça, donc qui va jusqu'à l'économie et les finances. En plus de cette explosion physique qui a détruit presque le tiers de Beyrouth et mis 300 000 personnes en dehors de leur maison, avec 200 victimes, des milliers de blessés. Un mois après, les gens sont encore dans le dénuement parce qu'il y a eu un élan formidable de la société civile et des gens, des bénévoles, des organisations de partout et après qui ont été suivis par des organisations internationales qui ont manifesté leur solidarité, une présence forte sur le terrain avec après cette très belle manifestation de solidarité qui est venue de la France et beaucoup d'autres pays du monde, mais avec l'absence aussi de l'État libanais sur le terrain. Il y a une quasi-absence des instances publiques, je dirais, pour gérer cette crise, ce qui rend encore plus le processus de reconstruction et de faire face à la crise encore plus compliqué et peut-être plus lent aussi en l'absence des instances publiques qui assument leur rôle.
Alors, père Fadi Daou, le Liban, un siècle après sa création, à la création du Grand Liban, est aujourd'hui à la croisée des chemins. Le système confessionnel qui prévaut depuis l'indépendance du Liban en 1943 est à bout de souffle. Quelle est la porte de sortie? Le confessionnalisme favorise le népotisme, le clientélisme, la corruption. Bon, ça n'est pas la seule cause, mais quand même, c'est un des paramètres. Faut-il en sortir, vous? Alors, la question que je vous pose à vous, le religieux, est-ce qu'il faut sortir de ce système?
Parce que, comme vous dites, le religieux peut-être va donner une réponse qui pourrait surprendre, c'est que définitivement, et je pense que ce système, il ne fonctionne plus, il est même mort et on subit les conséquences de vouloir toujours garder un système mais qui n'est plus en fait en vie. Il faut passer du confessionnalisme vers un pluralisme citoyen Parce que pour le préciser, quand on dit confessionnalisme au Liban, ça veut dire deux choses en fait. La première, c'est le partage du pouvoir entre les communautés, donc c'était quota au niveau du Parlement, du gouvernement, c'est-à-dire de tout le système politique. Et puis après, depuis en fait la fin de la guerre civile, donc après 1990, le confessionnalisme signifie aussi l'usurpation du pouvoir dans les communautés par les milices qui ont fait la guerre pendant 15 ans et par les chefs de ces milices qui ont juste retourné leur veste et sont devenus en fait le gouverneur du pays. Et depuis, ils sont là. Donc, nous sommes face à un double défi. Face à un système donc, de quotas qui ne fonctionne plus, mais c'est un système de quotas qui a été utilisé par ceux qui ont kidnappé littéralement, je peux dire, le pays. Des chefs de guerre qui sont devenus ceux qui gouvernent le pays depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, purement pour leur propre profit et pour se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, personnellement, je suis très convaincu, il y a beaucoup de forces civiles et civiques et politiques dans le pays qui croient qu'il faut absolument et le plus vite possible passer à un système citoyen, dont la citoyenneté est la base, et à la Fondation Adyen, on a développé le concept de citoyenneté inclusive de la diversité, c'est-à-dire le citoyen est la base de l'État, mais c'est un citoyen qui appartient à des communautés ou des cercles culturels et religieux différents, qu'il faut les reconnaître, mais pas au niveau du pouvoir politique, il faut les reconnaître comme étant le tissu social du pays et mettre en valeur cela. Donc, sortir du confessionnalisme, ce n'est pas un reniement du pluralisme, c'est au contraire c'est favoriser le pluralisme, mais à travers un État citoyen viable.
Est-ce que cette demande, elle est faite par les jeunes musulmans et les jeunes chrétiens de la même façon ?
Cette demande, elle est très fortement faite, en fait, par ce qu'on appelle les gens de la révolution aujourd'hui. Depuis 17 octobre dernier, vous savez qu'il y a eu des vagues et des vagues de manifestations dans les rues au Liban, un peu partout, et ça revient maintenant. Et c'est la première, en fait, réclamation de ces jeunes. Donc, c'est les jeunes générations. Alors, je ne peux pas dire que ça représente tous les Libanais, parce qu'il y a certainement d'autres Libanais qui restent, ou bien par peur, attachés à un système qu'ils croient qu'il est en train de les protéger d'une certaine manière. Mais finalement, on voit que les conséquences sont encore plus néfastes sur les chrétiens qui pensent, certains parmi eux continuent à penser aujourd'hui que c'est le système confessionnel qui les protège, et d'autres jeunes peut-être sur un autre bord plus idéologique du côté du Hezbollah par exemple, qui pour des raisons idéologiques ne seraient pas tout à fait favorables à ce système citoyen pluraliste. Mais je peux confirmer que la majorité des jeunes Libanais sont en faveur de ce passage vers un système citoyen pluraliste.
Père Fadi Daou, la réaction des religieux, on peut supposer qu'il y aura de grosses résistances, qu'ils vont perdre une partie de leur pouvoir et de leurs prérogatives.
En fait, le système libanais actuel ne donne pas vraiment de prérogatives aux religieux, aux responsables religieux. C'est en fait les responsables politiques au nom des communautés qui ont le pouvoir. La seule chose la plus problématique peut-être par rapport aux religieux, c'est le statut civil. Parce qu'au Liban, les statuts personnels, c'est-à-dire les lois qui concernent le mariage et l'héritage, dépendent des autorités religieuses. Et le passage à un État vraiment citoyen civil demande de créer aussi une loi civile. C'est là où il y a un défi à négocier avec les autorités religieuses. Mais sur le plan politique, en fait, le défi, c'est plutôt de faire bouger, comme j'ai dit, cette classe politique qui est là au nom des communautés, mais en fait, qui est là au nom des communautés parce qu'elle a fait la guerre au nom des communautés et elle a transformé le système de manière à se protéger, à rester au pouvoir.
Mais un mot encore précisément sur le code civil. Aujourd'hui, on doit au Liban se faire enregistrer sa religion. Enfin, on doit se faire enregistrer en tant qu'appartenant à telle ou telle communauté. C'est bien cela. Ce qui empêche le mariage entre, par exemple, une chrétienne et un musulman ?
Non. Pour préciser, la religion est inscrite sur le registre civil des citoyens. Mais s'ils veulent, ils peuvent rayer aussi cette inscription. Et certains le font. Donc ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Et deuxièmement, même si les gens sont chrétiens ou musulmans, ils peuvent toujours se marier civilement. C'est-à-dire le Liban autorise le mariage civil, mais le problème c'est qu'on n'a pas une loi civile pour l'exercer. C'est pour cette raison que des Libanais vont dans d'autres pays, en France,
à Chypre,
ou d'autres pays, voilà, pour contracter un mariage civil qui est reconnu par l'État libanais, donc qui l'enregistre au Liban. Donc ce qui manque, en fait, c'est la mise en place du système civil. qui n'est pas une affaire très compliquée, mais là, c'est là où il y aura, je pense, des défis vis-à-vis de l'autorité religieuse elle-même.
Alors,
à part cela, la question politique, elle dépend vraiment de la classe politique elle-même et moins des autorités religieuses.
Dernière question, Père Fadi Daou. Adiane, dans cette crise économique sans précédent, que fait Adiane? Quelles sont ses actions?
Adiane a lancé, pour répondre surtout à la crise, donc après l'explosion du port de Beyrouth et l'appauvrissement général de la population dans le pays, nous avons lancé une opération, nous l'avons appelée « Nous sommes debout avec Beyrouth ». Et donc nous avons fait appel à des dons. Les gens peuvent entrer sur le site de la fondation adianefoundation.org, ils peuvent avoir beaucoup plus d'informations sur cela. Mais très brièvement, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'abord soutenir les gens, soutenir ceux qui sont dans une situation de vraiment de vulnérabilité sur le plan de leur subsistance, aider à la reconstruction de Beyrouth et soutenir aussi au niveau de l'aide éducative et santé mentale, parce que ça, c'est aussi un secteur très important aujourd'hui. Tout le monde a été affecté par cette explosion, en plus de la situation qui met beaucoup de pression sur les Libanais. Et on a besoin de les soutenir au niveau de donc un soutien psychologique, psychosocial et éducatif aussi, comme d'habitude. On essaie toujours d'utiliser l'éducation, je dirais, pour justement construire cette citoyenneté inclusive de la diversité et aider les gens à toujours garder un certain espoir dans l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, le grand défi, en fait, c'est aider les gens à espérer dans l'avenir du pays et ne pas totalement quitter le pays ou abandonner leur engagement dans le pays.
Je vous remercie, Père Fadi Daou. Je vous remercie pour votre témoignage. Fleifel est franco-libanais, ce théologien, philosophe, spécialiste des questions géopolitiques, est le directeur de l'ICO, l'Institut chrétien d'Orient qui ouvre ses portes à Paris et ses cours en ligne le 1er octobre prochain avec le soutien de l'œuvre d'Orient. Une formation destinée au grand public mais aussi aux professionnels travaillant sur la région du Proche-Orient. 4 grands cours dispensés, dont celui sur la pensée chrétienne au Liban qui permet de mieux comprendre ce qui se joue actuellement au pays du Cèdre.
Le cours sur la pensée chrétienne au Liban met en exergue les réflexions des théologiens ou d'une manière plus large des chrétiens qui ont pensé la nature même du Liban, la présence des chrétiens, le dialogue islamo-chrétien, le régime politique libanais, la laïcité, le confessionnalisme. Ce sont des réflexions très utiles pour pouvoir se poser aujourd'hui les bonnes questions. Parce qu'en 1920, lorsque le Liban a été créé, c'était un projet de liberté, c'était un projet qui donnait aux chrétiens une certaine indépendance par rapport à une majorité musulmane qui les a gouvernés pendant plusieurs siècles. C'était un projet de convivialité. C'était un certain projet de citoyenneté, mais qui était en quelque sorte mis en pause, car d'une manière temporaire, il était question d'appliquer un régime confessionnel. Un siècle plus tard, la grande question se pose. Est-ce que ce projet a réussi ou a-t-il failli? Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le Liban, on se dit, effectivement, il y a beaucoup d'échecs. Mais est-ce que on doit mettre de côté le Liban et son idée à cause de ses échecs? Non, il faut être dans la nuance. Certes, cette expérience d'un siècle a ses failles, des failles qu'on a eues depuis le début de la création de ce Liban, notamment après aussi le départ des Français dans les années 40, c'est-à-dire le clientélisme, c'est-à-dire la corruption, c'est-à-dire les ingérences extérieures, c'est-à-dire tous les autres facteurs qui ont déstabilisé le Liban, comme le conflit israélo-palestinien, l'occupation syrienne, l'occupation israélienne, l'ingérence iranienne, les conflits et intérêts internationaux. Néanmoins, malgré tout cela, il y a eu quelque chose de bien dans le Liban. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient bien au Liban. Le Liban fut un phare culturel. Le Liban a montrer des exemples de convivialité, de projets communs entre les chrétiens et les musulmans. Aujourd'hui, il y a énormément de musulmans qui sont convaincus par le Liban comme étant leur patrie définitive, alors que ce n'était pas forcément le cas lors de la création du Liban en 1920. Je vous dis toutes ces réflexions pour exprimer ceci. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes face à une impasse. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes face à un effondrement de presque tout. Néanmoins, dans cette expérience, il y avait de bonnes choses. Il faut tirer des leçons, mais il faut surtout chercher à créer un Liban nouveau, un Liban qui fasse fi de toutes les impasses auxquelles nous avons été confrontés. Et l'une de ces impasses, c'est le confessionnalisme.
Est-ce que selon vous, il faut dépasser le confessionnalisme, sortir du confessionnalisme, sachant que ça ne sera pas facile, qu'il va y avoir des résistances, il peut y avoir des risques?
Nous parlions tout à l'heure de ce cours sur la pensée chrétienne au Liban. Et la majorité ou presque tous les théologiens qui ont réfléchi la question politique ont été pour la déconfessionnalisation du Liban, pour un régime laïque. Une laïcité positive, certains diraient douce. C'est une laïcité qui est en symbiose avec les religions, mais qui leur garde une place dans la société sans forcément que le politique ne soit soumis à la religion. Donc, tout s'opposer au confessionnalisme, le confessionnalisme qui est une dégénérescence du régime confessionnel. Pourquoi on veut mettre le confessionnalisme de côté? Parce que le confessionnalisme, déjà, pose des problèmes sur le plan de la citoyenneté, puisque pour l'État libanais, ces sujets, ce ne sont pas des citoyens au sens strict du terme, mais ce sont des membres de communautés religieuses, et c'est ainsi que la relation se fait avec eux. Mais le problème le plus grave encore du confessionnalisme, c'est le problème de la corruption que ça génère, parce que chaque communauté cherche à asseoir son pouvoir et à réclamer ses droits. Et par conséquent, on met dans des postes clés de l'État ou de l'administration des gens incompétents seulement parce qu'ils appartiennent à telle communauté qui possède ses droits. Et encore plus, le problème de ce confessionnalisme, c'est que les Libanais, plutôt que de prêter allégeance à leur pays, prêtent allégeance à leur communauté qui se constitue parfois en tant que micro-État. Et aujourd'hui, nous le constatons avec la communauté chiite. Donc oui, je suis en faveur d'un Liban laïque, d'une laïcité positive. Je suis en faveur de mettre de côté tout cela qui a causé tellement de tort au Liban. Néanmoins, nuance. Pourquoi le régime confessionnel a-t-il été créé? Parce que les chrétiens avaient besoin d'une garantie, encore une fois, je le dis, face à cette majorité démographique musulmane. Aujourd'hui, il est demandé, il est rêvé que nous passions à un régime laïque, contextualisé certes. Néanmoins, on fera ça, si on le peut, mais il faut une garantie pour les chrétiens. Quelle garantie pour eux? Parce que si on dit tout simplement aujourd'hui, allez, nous faisons des élections, c'est une démocratie laïque, eh ben, ce sont ceux qui sont majoritaires qui seront au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui la majorité musulmane est porteuse des valeurs, des droits de l'homme, de la citoyenneté, de l'égalité dans la société, de la distance avec le fondamentalisme religieux ou l'identité religieuse en tant que fondatrice de la citoyenneté? Il y a certainement beaucoup de musulmans qui vont dans ce sens, mais disons que vu l'ambiance générale de l'islamisme qui existe, que ce soit du côté sunnite ou du côté chiite, je crois que la question reste délicate. Donc oui, le régime confessionnel, il faut trouver une autre solution, il faut militer pour une laïcité, mais en même temps, il faut tenir compte de la complexité de la chose et il faut des garanties pour les chrétiens. Alors, quelles sont-elles? Comment le faire? Le débat est ouvert et nous devons tous réfléchir à cette chose.
Antoine Fleffel, directeur de l'Institut chrétien d'Orient, dont le lancement est soutenu par l'Œuvre d'Orient. L'avenir du Liban passe non seulement par des réformes de grande ampleur, mais aussi par le sauvetage de son secteur éducatif en pleine déroute. Mardi dernier, lors de sa visite à Beyrouth, le président Macron a annoncé la création par la France d'un fonds destiné aux écoles chrétiennes francophones au Moyen-Orient, fonds qui viendra des collectivités locales, du mécénat et de fonds privés. Cette initiative est soutenue par l'Œuvre d'Orient qui aide ces établissements depuis plus de 160 ans. Avec nous en ligne, Monseigneur Pascal Golnisch, directeur de l'Œuvre d'Orient, de retour de Beyrouth. Bonjour mon père.
Bonjour.
Vous étiez dans la délégation qui accompagnait le président français. Alors, pourquoi une telle démarche de la France? Pourquoi la France veut-elle aider les élèves du Liban? Est-ce que c'est aider le Liban à ne pas sombrer?
Exactement. C'est déjà une action qui était en œuvre avant l'explosion de Beyrouth, et je dirais même avant la crise du Liban. Déjà, le président de la République était très sensible à cette question et avait demandé à un haut fonctionnaire, ami de l'Œuvre d'Orient, M. Charles Persona, de faire un rapport sur l'action de la France vers la francophonie et d'ailleurs aussi vers la sauvegarde du patrimoine. Alors évidemment, la crise au Liban a accentué ce besoin et donc ce sera un fonds, comme vous l'avez dit, où il y aura donc en effet les collectivités territoriales, les entreprises, mais il y aura aussi l'État qui va, il y aura l'Œuvre d'Orient qui va essayer de soutenir, mais il y aura l'État français qui va donc verser des fonds pour soutenir les écoles chrétiennes francophones du Moyen-Orient, donc du Liban et les autres. Mais encore, auprès des écoles du Liban, il y a un effort extrêmement important de la France pour soutenir ce qu'on appelle les établissements homologués. Ce sont souvent des grands établissements assez prestigieux qui sont en grande difficulté financière, qui ont un contrat avec la France, avec notamment ce qu'on appelle l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Et ces établissements seront tout à fait soutenus par la France. Et ceux qui ont été touchés par les explosions de Beyrouth seront particulièrement aidés pour la reconstruction. Alors notre objectif avant l'explosion de Beyrouth, c'était aider ces écoles à rouvrir. Parce que différentes crises économiques, financières, politiques, la crise sanitaire, mettaient en péril la rentrée des classes dans un certain nombre d'établissements. Et donc, Nous voulions aider la rentrée des classes.
Quelle est la spécificité de ces écoles francophones au Liban?
Alors, ces écoles francophones, et généralement chrétiennes francophones, ont plusieurs aspects. D'abord, et c'est pas simplement qu'une question de scolarité, c'est une question de vie sociale. Les familles se retrouvent autour de l'école. Et parfois, de l'aide nécessaire aujourd'hui au Liban pour nourrir les familles passe par l'école. Donc vous voyez, l'école, c'est vraiment un lieu de vie sociale. Et le maintien de l'école, c'est le maintien de cette vie sociale dans un certain nombre d'endroits un peu reculés, au Liban, dans les montagnes ou ailleurs. C'est la vie sociale qui se maintient autour de l'école. Et donc, si l'école ferme, c'est la vie sociale qui disparaît. Dans ces écoles, c'est l'accueil d'élèves chrétiens, l'accueil d'élèves musulmans, l'accueil des garçons et des filles dans la même école, l'accueil des élèves riches, des familles aisées, mais aussi des familles pauvres et parfois des familles très pauvres. C'est dans ces écoles que des très pauvres chrétiens ou musulmans, sunnites, chiites ou druzes, peuvent avoir accès à la culture. Si ces écoles ferment, pour le dire un peu brutalement, les familles aisées s'en sortiront, mais les familles pauvres, ce sera terminé. Il n'y aura plus d'accès à la culture. Et on comprend tout de suite que le fait d'élever ensemble des élèves chrétiens et des élèves musulmans, c'est la paix sociale du Liban demain. Et dans ces écoles dont la culture est francophone, ils apprennent aussi l'arabe et l'anglais, hein, mais la culture d'établissement est francophone et par conséquent, ce sont les valeurs de la France, de la culture française qui aussi peuvent être diffusées. Si nous perdons ces écoles chrétiennes francophones du Moyen-Orient, il n'y aura plus aucune influence de la France dans la région dans 15 ans. Donc ce qui se joue, c'est aussi l'influence de la France dans la région, mais ce qui se joue encore, c'est la paix sociale dans ce pays. Si ces écoles ferment, ce sera un conflit dans les années qui viennent, parce qu'on poussera des populations à la désespérance, on ne les aura pas élevées au respect mutuel, et donc il y aura des conflits au Liban, et ce sera la fin du Liban. Et cela aura des répercussions de proche en proche dans tous les pays du Moyen-Orient, parce qu'on aura montré que le vivre ensemble entre différents groupes d'appartenances diverses ne serait pas possible. Donc l'enjeu du Liban, c'est capital pour la région, Et pour le Liban, l'enjeu des écoles, c'est capital. Vous voyez, c'est l'histoire de poupyrus, de proche en proche. Si nous ne sauvons pas les écoles, nous ne sauvons pas le Liban. Si nous ne sauvons pas le Liban, nous ne sauvons pas le Proche-Orient. Si nous ne sauvons pas le Proche-Orient, c'est tout le bassin méditerranéen qui va entrer en conflit. Et ça ne sera pas sans conséquence dans le nord de la Méditerranée.
Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur de l'œuvre d'Orient. Et l'on referme ce dossier Liban avec la voix de Férouz, l'icône de la chanson libanaise, à qui le président Emmanuel Macron a remis la Légion d'honneur lors de sa venue à Beyrouth. Spiritualité pour un monde devenu adulte. C'est à partir du constat d'une humanité arrivée à un moment crucial de sa croissance qu'Henri Quinson pose cette question dans son essai « Et l'homme devint Dieu » publié aux éditions Le Passeur. Deux grandes parties dans cette dense réflexion qui s'appuie sur de nombreuses références historiques et scientifiques. Dans la première partie, il s'agit de faire une relecture de l'histoire de l'humanité, des origines de la vie à nos jours, une humanité envisagée comme une grande famille et dont les stades de croissance au cours des siècles rappellent ceux de l'enfant dans son cheminement vers l'âge adulte. Et puis une deuxième partie, cette humanité avec les fulgurants progrès techniques n'a jamais été aussi puissante. Elle est devenue maître à bord de son destin, mais ne pouvant plus aborder la question du mystère de l'existence avec les outils traditionnels des religions, eh bien, elle est déboussolée. Et nous rejoignons à Marseille, Henri Quinson, bonjour.
Bonjour, bonjour Geneviève.
Pour mieux comprendre votre démarche, Henri, un retour sur votre passé, j'allais dire, pour que nos auditeurs comprennent votre parcours, un parcours que vous aviez raconté dans un livre précédent. Vous avez été trader à New York et puis vous êtes parti un jour à l'abbaye cistercienne de Tamiers dans les Alpes. Et puis ensuite, vous avez quitté cette abbaye pour rejoindre les quartiers nord de Marseille, vivre dans une communauté, faire du soutien scolaire. Après, je me suis arrêtée là, je ne sais pas ce que vous étiez devenu, manifestement des livres, des conférences.
Ben écoutez, je suis toujours à Marseille, toujours dans le 13e arrondissement. Effectivement, je suis resté sur cette cité qui s'appelle la cité Saint-Paul à Marseille jusqu'à sa réhabilitation. Après, j'ai travaillé pour le film « Des hommes et des dieux » sur les moines de Tibirine, puisque j'ai connu 4 des 7 moines qui ont été assassinés en Algérie en 1996. Donc, film avec Xavier Beauvois, qui avait été primé à Cannes, entre autres choses. Et puis, je me suis rendu à ma vie marseillaise, après avoir fait ce détour au Maroc, toujours dans le 13e arrondissement. Je continue d'enseigner, notamment dans l'enseignement catholique et également en faculté. Et puis, effectivement, je donne des conférences et là, j'ai écrit un livre à la demande, effectivement, des éditions Le Passeur, qui était intéressé d'avoir une petite synthèse sur la situation actuelle.
Alors, la situation actuelle, une synthèse qui a été envisagée avant le coronavirus, même si, effectivement, dans votre préface, vous en parlez, le coronavirus est évidemment un moment historique, mais ça n'est pas quand même à la lumière du coronavirus que vous avez écrit ce livre.
Non, c'est vrai, le coronavirus est un épisode supplémentaire dans ce que j'analyse comme une forme d'unification de plus en plus profonde de l'humanité. L'humanité est à la fois constituée d'un grand nombre de personnes, mais c'est vrai que le coronavirus est encore un exemple qui montre que, alors je le dis dans mon livre, il y a 127 passagers par seconde en 2017 dans les avions, donc la propagation des virus, on n'a jamais vu une rapidité aussi grande pour pouvoir propager un virus. Donc c'est pour le meilleur et pour le pire. Et ça suscite le coronavirus, j'en parle brièvement dans mon livre, des réactions qui sont à l'échelle mondiale, qui sont des réactions collectives et qui posent aussi la question du sens de l'existence, parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut protéger les plus faibles? Est-ce que la vie biologique est plus importante que la vie relationnelle, etc. Donc c'est un épisode parmi beaucoup d'autres qui montre ce déroulement que j'analyse, comme vous l'avez dit, dans cette première partie, comme une évolution de l'humanité selon les étapes qui sont celles de chacun d'entre nous. Alors, ce que peuvent connaître à la fois les parents, les éducateurs et les professeurs, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des étapes de croissance à la fois physique, psychologique et également de notre mobilité. Donc, l'exemple de ces 127 passagers par seconde, c'est un exemple de la croissance exponentielle de la mobilité de l'humanité.
Cette humanité que vous envisagez comme une grande famille, et d'ailleurs avec le Covid, hein, on le voit bien, nous sommes effectivement une grande famille humaine frappée par le même virus, mais vous dire, ça fait longtemps que vous envisagez l'humanité comme une grande famille, dans votre démarche, ne serait-ce que dans votre démarche interreligieuse, Henri Quinson.
C'est en 1992 que j'ai vraiment pris conscience de ça. C'est vrai que j'étais rentré au monastère. Bon, c'est une note un peu personnelle que je mets en début d'ouvrage. J'étais rentré au monastère de Tamier. Donc, les monastères sont des univers plutôt clos, qui en même temps pratiquent l'hospitalité très très largement. Mais c'est à cette occasion que je me suis rendu compte, séparé de ma famille, que je voyais qu'une ou deux fois par an, que je me suis rendu compte que finalement, ma famille effectivement était plus large, que mes parents étaient certes mes géniteurs, et que donc ils m'avaient transmis leurs gènes sur le plan génétique, que sans doute la culture familiale et bien d'autres choses, mais qu'en fait eux-mêmes tenaient cette vie mystérieuse de leurs ancêtres, et que si on remontait très très loin à la naissance de l'humanité, on était plongé dans un mystère que les scientifiques cherchent à explorer, que les mystiques ont médité, que les religions, comme vous l'avez dit en introduction, ont cherché à sinon à expliquer, mais en tout cas à lui donner un sens. Et en fait, notre humanité, oui, on est peut-être très centré sur nos égos, mais on se rend rapidement compte à quel point on est interdépendants les uns des autres, dont l'exemple du Covid en est un, mais de manière plus générale, que cette grande aventure que j'essaye de retracer dans ce livre, cette grande aventure, en fait, nous place effectivement dans une aventure collective.
Alors, pour le religieux que vous avez été, est-ce que ça n'est pas effectivement difficile, quand on relit l'histoire, de constater, vous le dites très clairement, qu'il y a eu en fait des milliers peut-être de religions, en tout cas des centaines de religions, qui ont été créées par l'homme au cours des siècles, et puis que ces religions, elles ont disparu?
Ça a toujours été une de mes grandes questions, effectivement. Certains spécialistes disent qu'il y a eu à peu près 10 000 religions qui se sont succédées sur la Terre. De toute évidence, même si le professeur Raoult à Marseille ressemble à un druide, mais le culte druidique n'est plus majoritaire en France, même si parfois certains cherchent à en retrouver l'esprit ou les manières. Mais je donne l'exemple des Gaulois, c'est Jules César dans la guerre des Gaules qui explique que les druides précisément ne veulent pas garder leur savoir dans l'écriture. Ils ne veulent pas. Et là, tout à coup, l'écriture est arrivée dans l'histoire de l'humanité. Mais ces religions, qui étaient des religions purement orales, par exemple, ça c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, ont disparu. Mais on peut en dire autant des religions égyptiennes,
Maya,
qui sacralisent.
Oui.
Voilà, Maya, les Égyptiens sacralisaient le Nil parce que le Nil était tout pour eux, comme les Indiens d'Amérique du Nord, les bisons, etc. Donc, qu'est-ce qui reste de ces religions? Pourquoi est-ce qu'elles ont disparu progressivement? Et je fais donc référence, moi, toujours dans mon livre, aux différentes étapes de chaque individu. Et on peut se rendre compte qu'un petit enfant, par rapport à l'univers qui l'entoure, se pose beaucoup de questions, mais il peut aussi avoir des amis imaginaires, il a une vision de ce qui l'entoure qui est différente de celle d'un adulte, et je pose donc la question de savoir si la plupart des religions ont disparu parce que elles n'étaient plus accordées au développement mental, physique de l'humanité, et s'il en reste encore quelques-unes, puisqu'il en reste quelques-unes, quelques grandes traditions.
Alors donc monothéiste principalement.
Bien sûr. Alors, oui, alors les églises chrétiennes, le judaïsme, l'islam, mais enfin, on peut pas non plus effacer d'un
l'hindouisme.
L'hindouisme, le bouddhisme, et puis également des sagesses. Alors, sont-elles des religions ou non? Je le discute également dans mon livre pour ce qui est du taoïsme ou du confucianisme en Chine. Mais en tout cas, il reste un dernier carré. Est-ce que ce dernier carré va survivre ou non? C'est une des questions qui se posent de plus en plus, puisque les athées sont très minoritaires aujourd'hui sur la planète. planète. En France, on s'en rend peut-être pas trop compte parce que c'est une, on va dire, une tradition de pensée maintenant qui est relativement importante. Mais en revanche, la question d'une spiritualité sans Dieu qui a été évoquée par exemple par André Comte-Sponville est une bonne question. Et la question finalement, c'est est-ce que l'évolution de l'humanité va aboutir à la disparition totale des religions? Ou est-ce que les religions ou la spiritualité, deux mots différents que j'essaye de définir dans mon livre, est-ce qu'elles peuvent survivre à cette entrée dans ce que moi je considère comme l'âge adulte qui se caractérise par différents éléments, notre rapport au temps, notre rapport à l'espace, la constitution d'un cerveau planétaire qui est largement fondé sur l'infrastructure d'Internet, mais d'autres choses également. Donc cette mise en commun de nos savoirs et de nos connaissances, est-ce que ça signe la disparition des religions ou non? Voilà.
Vous écoutez Religion du Monde, notre invité est Henri Quinson pour son livre « Et l'homme devint Dieu ». Alors justement, Henri Quinson, ce titre pose question parce que quand on dit aujourd'hui « l'homme se prend pour Dieu », notamment par exemple en matière de recherche, hein, avec les manipulations génétiques possibles, eh bien ça soulève effectivement tout de suite de vastes critiques, notamment d'ailleurs de la part de l'Église, hein, qui dit bien « l'homme ne doit pas se prendre pour Dieu ». Vous, dans « Et l'homme devint Dieu », c'est complètement différent. Il ne se prend pas pour le maître du monde.
Alors, mon titre est effectivement... peut-être compris de différentes manières, et c'est d'ailleurs extrêmement intéressant de voir les premières réactions. Alors, vous avez tout à fait raison, il y a beaucoup de gens qui disent, alors d'ailleurs en l'occurrence avec cette crise du coronavirus, ah ben voilà, l'homme a voulu se prendre pour Dieu, donc il a voulu effectivement cette hypermobilité, cette hyperconnexion, etc. Et puis en fait, il a toujours des virus, la nature se venge, parce qu'aussi il y a tous les problèmes que j'envisage aussi dans mon livre, de l'environnement, etc.
Oui, de l'urbanisation, de mégalopole, voilà. Etc. Oui, propice exactement. Effectivement au virus, oui.
Voilà. Mais dans mon livre, je me réfère beaucoup à une tradition qui est à la fois une tradition qu'on va trouver dans l'hindouisme avec leur représentation de la spiritualité dans laquelle nous aurions, pour aller très très vite, une âme, une intériorité qui nous est propre, mais qu'également il y aurait une unité divine. Et donc dans le vocabulaire hindou, il s'agit donc de l'atman qui serait l'âme et puis le brahman qui serait Dieu, mais que dans lequel il y a une union possible. Et chez les grands mystiques juifs, chrétiens, mais on trouve également ça dans l'islam, dans les confréries soufis, il y a aussi cette idée que l'homme, par participation, non pas par nature, Dieu est Dieu et l'homme est l'homme, mais en tout cas, pourrait devenir Dieu sur le plan spirituel. Mais il ne s'agit pas du tout d'une perspective transhumaniste dans laquelle, et j'y insiste beaucoup dans mon livre, dans laquelle il s'agit pour les transhumanistes, grâce à la technologie, moi je suis très technophile mais pas technolâtre, mais la technologie permettrait de devenir immortel. J'ai parfois discuté en dehors de plateaux de télévision avec des transhumanistes qui me regardaient droit dans les yeux et qui me disaient que dans 50 ans, eux et moi, nous serions immortels, il n'y avait pas de problème. Question d'ailleurs qui soulevait une autre pour moi, c'est quid du cosmos qui lui aussi vieillit. Mais pour moi, il ne s'agit pas de rajouter, pour aller très vite, des jours
au temps.
À la vie.
Oui, à la vie. Oui.
Mais la spiritualité, c'est rajouter de la vie à nos jours. Et dans cette perspective, notamment chez les pères orientaux dans les églises chrétiennes, il a toujours été question de la divinisation de l'homme. Et donc, je dirais que la première partie de mon livre, il s'agit surtout de montrer que nous sommes effectivement soumis à un certain nombre de déterminismes qui sont tout simplement les étapes de maturation qui sont celles d'un individu, mais qui s'appliquent également à la collectivité humaine. Mais que dans la deuxième partie de mon livre, je m'efforce de dire qu'il y a toujours un enjeu spirituel et que c'est pas parce qu'on devient adulte qu'on est bien. Un adulte peut faire des bêtises. Le problème, c'est qu'il fait des bêtises à très grande échelle par rapport à un enfant. Et surtout, il est responsable de ses actes et il en subit les conséquences. Et donc, la question est, effectivement, comment une spiritualité pour un monde adulte peut continuer à nous éveiller à une voie qui, moi, me paraît à la fois réaliste et heureuse et qui est finalement celle de nous relier les uns aux autres en essayant d'être attentifs aux uns et aux autres, puisque nous avons partie liée, mais que cette perspective n'est pas du tout une victoire forcément sur l'espérance de vie individuelle. Il s'agit plutôt au contraire d'une espérance qui nous transporte effectivement au-delà du monde créé à la suite de Théard de Chardin, qui est donc un paléontologue et penseur chrétien jésuite, et qui voyait trois grandes phases dans l'histoire du monde: la pré-vie, c'est-à-dire avant l'apparition de la vie qui est cette vie biologique, et puis également une survie. Et ça, c'est une partie de ma conclusion, parce que je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, avec ce virus, on est beaucoup dans une problématique de survie biologique. Mais la question, c'est: est-ce qu'il y a une vie supérieure? On a des questions très concrètes, par exemple, sur les EHPAD. Est-ce qu'une personne d'un certain âge préfère continuer d'avoir des visites parce que pour elle, ce qu'elle a vu, c'est de pouvoir voir ses proches dans ses derniers jours, dans ses dernières années? Ou est-ce que pour elle, la vie, c'est simplement de continuer à rajouter quelques jours, mais tout seul et malheureux? Donc c'est des questions très concrètes.
Alors, aux religieux que vous avez été, aux moines que vous avez été, Henri Quinson, je pose aussi cette question, cette spiritualité, alors on va dire sans Dieu, c'est aussi une spiritualité sans rite, c'est une spiritualité qui n'a plus le sacré.
Voilà, alors ça c'est une des questions également que j'évoque.
Ça c'est un manque quand même, non? Oui, on peut le supposer.
Voilà, c'est-à-dire, spiritualité sans Dieu, j'y consacre tout un chapitre, et effectivement, il y a une première chose, c'est que il faut bien définir le mot mystère. Le mystère de l'existence, il est là. Je considère que le mot mystère, ça n'est pas quelque chose d'incompréhensible, mais c'est quelque chose de compréhensible à l'infini, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc on peut appliquer son intelligence à essayer de se rapprocher de ce mystère, d'où la théologie. Mais c'est également l'illumination, l'éveil, une expérience spirituelle mystique qui dépasse les mots. Et ça, par exemple, des penseurs athées ont fait cette expérience. Mais c'est également la relation aux autres. Et la relation aux autres, en effet, c'est rendre service, c'est bien sûr des tas de choses très concrètes qu'on pourrait qualifier de caritatif. Il y a énormément de gens qui font du bien autour d'eux, à travers des associations, des organisations, mais même à titre personnel. Mais on peut se poser la question, en effet, dans mon livre, j'en arrive quand même au fait que dans la vie, il y a des étapes, et ces étapes importantes ont toujours été marquées, effectivement, par, chez les Juifs, la bar mitzvah quand on devient adulte, mais dans toutes les traditions, le mariage, qu'il soit polygame ou non, mais la naissance d'un enfant, etc. Tout ça est célébré. Et finalement, en quoi l'art, notamment, pourrait être totalement déconnecté de ces réalités? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un est décédé? On se rend compte aujourd'hui, dans un monde, par exemple en France, qui est largement sécularisé, que il faut arriver à trouver une forme de célébration. Et c'est là que les grandes traditions religieuses, effectivement, au cours des siècles, ont toujours pris en charge ces moments-là. Et donc, il y a une question là qui est posée sur la survie des religions. Et je pense que la religion, entendue comme mysticisme et comme fraternité et célébration de ces grands moments de la vie, je prends le risque de penser que on n'est pas encore débarrassé de ces formes qui pourraient pour certains paraître archaïques, parce qu'en réalité, elles sont un accompagnement décisif pour beaucoup de gens pour s'humaniser à l'occasion de ces grandes étapes.
Et est-ce que ce processus que vous décrivez dans votre livre, Henri Quinson et l'homme devint Dieu, d'émancipation en fait, est-ce que c'est exactement ce que vous avez vécu sur un plan personnel? Pour vous, aujourd'hui, Dieu, c'est qui? C'est quoi?
Toute la question est là, et dans mon livre, effectivement, je pose cette question de manière globale, mais c'est évidemment le fruit aussi d'une expérience personnelle. Vous avez tout à fait raison de me poser cette question. Je pense que, tout en restant personnellement chrétien, catholique, latin, ma vision de Dieu et mon expérience de Dieu est très différente aujourd'hui, à bientôt 60 ans, qu'elle l'était quand j'avais 18 ans. J'ai suivi plusieurs étapes. Ce que moi j'en retiens, c'est que les fruits de la vie spirituelle, certes, peuvent être la paix, mais ça n'est pas la tranquillité. Le fait d'accepter d'être dérangé par le pauvre, l'étranger, mais je dirais aussi les enfants, peut-être l'homosexualité, parce que tiens, c'est quelque chose qui peut pour certaines personnes paraître bizarre parce que statistiquement pas majoritaire. Bref, accepter d'être remis en question dans sa vision du monde, et j'y insiste beaucoup dans mon livre, et personnellement ça a été mon chemin, c'est non pas de rester dans une religion qui pour moi est la religion de l'enfance, qui est celle des observances et qui est tout à fait compréhensible dans cette étape-là, c'est-à-dire il suffit d'être quitte d'un certain nombre de commandements ou d'observances, mais d'entrer dans une intelligence qui est plus celle du discernement, intelligence qui requiert toutes les facultés de l'homme et donc dans laquelle on ne voit pas d'opposition entre une démarche de foi et une démarche qui serait la démarche de la raison. C'est-à-dire qu'il y a, là un travail qui se fait de concert. Et je pense que la raison, je l'analyse dans mon livre avec le scientisme, laissée à elle-même, en revanche, me paraît un chemin non seulement desséchant, mais je pense qu'on l'a vu historiquement, potentiellement dangereux. Donc moi, c'est ce travail personnellement que j'ai effectivement essayé de suivre et qui est un chemin de crête dans lequel il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des choses qui peuvent paraître effectivement daté et dépassé, mais il y a d'autres éléments, mais qui sont, à mes yeux, plutôt des éléments de libération et également d'ouverture aux autres et de compréhension des points de vue qui ne sont pas nécessairement les nôtres au départ.
Alors, ça sera ma dernière question, Henri Quinson. Pourquoi avez-vous choisi en préambule la phrase de Dietrich Bonhoeffer, donc ce pasteur hein, allemand, résistant, mort dans un camp pendant la Deuxième Guerre mondiale? Je lis cette phrase. « Le monde majeur est un monde sans Dieu et pour cette raison peut-être plus près de Dieu que ne l'était le monde mineur. »
Oui, parce que votre question sur Dieu, effectivement, je pense que Dieu, je l'explique dans mon livre, en français, ce mot vient sans doute de Zeus, qui est un dieu dans le panthéon grec, mais qui est un grand barbu, infidèle, voilà, qui n'a pas grand-chose à voir avec, en tout cas, l'image que moi, je me fais de Dieu à l'heure qu'il est. Et donc, arrivé à un certain point, si Dieu, c'est celui qui fait tout pour vous, si c'est celui à qui il faut téléphoner toutes les 30 secondes pour lui demander qu'est-ce qu'il faut faire dans telle et telle situation, je pense que pour le monde adulte, le monde majeur, comme le dit Bonhoeffer, c'est un handicap. C'est vraiment infantilisant. En revanche, ça ne veut pas dire que la divinité n'existe pas, mais notre position par rapport à la divinité, c'est pour ça que mon titre « Et l'homme devint Dieu » est important, c'est que nous arrivons à un point d'égalité, j'ose ce mot, mais encore une fois par participation, non par nature, et c'est progressif et ça n'est pas parfait. Mais l'idée, c'est que nous avons les clés du jardin. Dieu nous a donné les clés du jardin, et nous sommes plus proches, en effet, de Dieu si nous acceptons l'idée que, finalement, l'avenir de la planète dépend largement de nos décisions. Et je crois que c'est l'expérience existentielle de ce moment dans lequel, pour des raisons environnementales, nous posons la question de la survie de l'espèce. Alors pour moi, c'est plus profond que la survie de l'espèce, c'est carrément le sens de l'histoire humaine. Et en effet, Dieu peut paraître impuissant, mais en revanche, nous sommes appelés à comprendre que pour que nous soyons pleinement humains, il s'agit nous-mêmes d'accepter cette responsabilité très surprenante finalement, je pense, pour beaucoup d'esprits religieux, que les décisions, les visions du monde, les styles de vie que nous pouvons refuser ou adopter sont précisément l'enjeu de la spiritualité d'aujourd'hui.
Je vous remercie, Henri Quinson. Je rappelle le titre de votre livre « Et l'homme devint Dieu, spiritualité pour un monde adulte » et c'est publié aux éditions Le Passeur. Merci.
Merci à vous.
C'est la fin de Religion du Monde que vous pouvez réécouter en podcast. Geneviève Delrue, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.